Nous voici, ô notre Dieu, ô notre source ultime. Tu es présent dans nos vies de lumière et tu nous accompagnes quand notre vie est ténèbre. Et rien ne peut nous séparer, jamais, de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Tu nous l'as promis par la bouche de tes prophètes et de tes témoins. Tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, nous donnant sans condition, sans chantage, dès maintenant, la grâce, la miséricorde et la paix. Et c'est vers toi, ô notre Dieu, que nous faisons monter notre louange par le chant de ce psaume numéro 65, c'est le 33 dans nos recueils. Je vous propose de chanter les trois premières strophes donc de ce psaume de louange. C'est ta louange, ô Dieu fidèle, qu'il faut toujours chanter. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel notre Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Donc, c'est ce que va nous proposer donc Isabelle dans une prière de repentance et dans l'annonce du pardon.
Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre, ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors Seigneur, nous voici devant toi, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi, avec ce que nous appelons notre péché, qui nous sépare et de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et chantons notre reconnaissance en ouvrant notre psautier au numéro 57. Nous entonnons le psaume 116 et nous chantons les quatre premières strophes. Donc, numéro 57. Et je vous invite à vous lever.
S'asseoir. Alors, je vais vous lire un des textes les plus connus de la Bible, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Bien des commentaires de cette célébrissime rencontre, de ce dialogue, expliquent que cette femme puiserait de l'eau en plein midi parce qu'elle avait mauvaise réputation et donc qu'elle voulait éviter le contact avec les autres, et puis qu'elle ne comprenait rien à ce que raconte Jésus et que tout au long de ce dialogue, ils sont en complet malentendu. Personnellement, je considère cette interprétation comme invraisemblable et je vais vous montrer un peu ce que j'en pense dans la méditation que je vais vous proposer. Mais d'abord, nous pouvons donc suivre ce passage, c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 4. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et baptisait plus que Jean, à vrai dire, nous dit le texte, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais c'était ses disciples. Alors Jésus quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il devait, lui, passer par la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis de cette façon au bord du puits. C'était comme une sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où tiendrais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui a lui-même bu de ce puits, ainsi que les siens et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau qui est ici aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer Dieu. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent, et ils s'étonnaient que Jésus parlait avec une femme. Cependant, personne ne lui dit, « Que cherches-tu ?» ou « Pourquoi lui parles-tu ?» La femme alors, abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens, « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie ?» Alors ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Alors je passe un petit passage pour raccourcir et je reprends la suite de cette histoire. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux, et il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes paroles que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Ô Éternel, par l'étude de ces écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors la femme serait mal vue de ses voisins, peut-être à cause de sa vie conjugale, nous disent les interprétations. Alors cela ne cadre pas, à mon avis, avec cette partie de l'histoire où elle invite ses voisins à la suivre pour aller voir un homme qu'elle trouve intéressant. Et puis les gens la croient et ils la suivent. Si elle était si mal vue que ça, ils auraient pu rigoler en lui disant « Tu as encore péché un homme de plus ?» Mais non, ils la suivent en confiance. L'idée que la femme ne comprendrait rien à ce que Jésus raconte, qu'il y ait sans arrêt un malentendu entre Jésus et elle, ne me semble pas non plus vraisemblable. En effet, elle répond à Jésus « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'aie plus soif et qu'ainsi je n'ai plus à venir puiser ici. » Cela prouve évidemment que cette femme ne pense pas à l'eau, je dirais à l'eau matérielle, à l'eau physique, que toute personne qui s'est un peu occupée des affaires de la maison sait très bien que la quantité d'eau que nous avons à boire, peut-être 1,5 litre par personne, et rien par rapport à la quantité d'eau qu'il faut pour tenir une maison. Parce qu'il faut aussi de l'eau pour cuire les aliments, pour se nettoyer un peu, pour nettoyer les vêtements, pour nettoyer un peu les casseroles, un peu la cuisine, que sais-je. Ça fait au moins 10 litres d'eau par personne et par jour. À l'époque, pour nous aujourd'hui, c'est plutôt 100 litres par jour. Et puis elle avait peut-être aussi 3 chèvres et 2 poules, il faut pour ça 40 litres d'eau. Peut-être qu'elle a un peu une plante, un plant de tomate dans son potager, que sais-je, il faut encore plus d'eau. Et par conséquent, la quantité d'eau qu'il faut pour boire quand on a soif est tout à fait négligeable par rapport à la quantité d'eau qu'il faut pour sa maison. Donc le fait de ne plus avoir soif ne changerait rien au fait qu'elle ait besoin d'aller puiser de l'eau au puits. Donc par sa réponse, nous voyons que la femme a certainement compris que quand Jésus parle, il n'est pas question de l'eau matérielle, mais de l'eau de la parole de Dieu, de l'eau de sa bénédiction, selon une image très classique dans la Bible. Par conséquent, quand un savant bibliste imagine que la femme ne comprendrait pas ce que dit Jésus avec son histoire d'eau vive, que c'est de l'eau intérieure, de l'eau spirituelle, eh bien c'est ce spécialiste de la Bible qui aurait peut-être dû s'occuper un peu plus des tâches domestiques dans sa maison, il saurait combien il faut d'eau pour la maison. Et que ce n'est pas la femme samaritaine qui pense trop à ses tâches ménagères, que c'est plutôt le savant bibliste qui n'y pense pas assez. Mais à vrai dire, je pense que toute cette interprétation très traditionnelle de ce passage est infestée de préjugés machistes où une femme, en gros, a le droit d'être soit la Sainte Vierge, soit une bonne ménagère avec ses gosses, soit une prostituée. Mais certainement pas une femme intelligente et érudite, comme la Samaritaine, respectée et même influente, comme elle se montre être, spirituelle et mystique, s'intéressant à la foi, à la théologie, et oui, aussi aux tâches ménagères, parce qu'il faut bien aller puiser de l'eau pour boire et pour son ménage. Pour comprendre donc ce prodigieux dialogue entre Jésus et la Samaritaine, encore faut-il connaître leur langage. Et pour cela, il ne suffit pas de connaître les mots du texte qui sont si simples, mais il faut comprendre aussi l'usage que l'on fait des mots dans la culture de l'époque, dans la société de l'époque. Nous avons ici une conversation entre Jésus et la Samaritaine. Ils parlent le même langage et se comprennent, ce qui leur permet à tous les deux d'avancer pas à pas au fil de leur conversation où l'un après l'autre, ils participent à l'avancée de cette conversation. C'est ce que note Kierkegaard, rapprochant ainsi Jésus et Socrate. Ce qui est en question ici est précisément bien plus que la sagesse à laquelle mène le dialogue socratique. Mais cette méthode d'avancer par le dialogue, d'accoucher d'un nouveau nous-mêmes à travers le dialogue, est quelque chose effectivement qui rapproche Jésus et Socrate. Alors j'ai personnellement vécu une rencontre qui a été pour moi intéressante. J'effectuais un remplacement dans un pays de montagne chargé de prédications et puis de faire des visites aux personnes isolées. Alors dans le fichier, je remarque qu'il y a une grand-mère de 90 et quelques années qui vit seule avec son fils dans une ferme très reculée quelque part, sans téléphone. Je tente ma chance un après-midi, je suis accueilli par la dame en sabot de bois. Elle m'offre le café, un café qui recuisait sur le bord du poêle. Elle accepte que je lui lise la Bible, que je lise ce que je veux, me dit-elle. En général, quand on me dit ça, c'est pas très bon signe, mais si ça vous fait plaisir, monsieur le pasteur. Alors je prends le récit de la Samaritaine mettant à l'honneur une femme. Bon. Je lis ce long passage, comme je viens de le faire, et lui demande ce qu'elle en pense. Sans que personne ne le lui ait jamais expliqué, cette grand-mère avait saisi la finesse de ce jeu incroyablement complexe de ce dialogue, et compris, saisi les allusions bibliques qui en font un des textes les plus riches de l'Évangile. Le puits, l'eau, les 5, 6 ou 7 maris, la 6e ou la 7e heure, tout faisait sens pour elle, renvoyant à d'autres textes de la Bible qu'elle citait de mémoire. Alors je lui ai demandé comment est-ce qu'elle avait trouvé ça. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'instruction, ayant arrêté les études à 13 ans, comme ça se faisait à l'époque en France voisine, et puis n'ayant lu aucun autre livre que la Bible, n'ayant pas le journal, et n'ayant que rarement pu aller au culte. Vous comprenez, il faut s'occuper des bêtes, et puis le matin, il y a le fromage à faire avec le lait de la veille au soir et du matin. Mais qu'ayant passé la plus grande partie de sa vie à garder ses chèvres, elle avait eu beaucoup de temps pour elle, et qu'elle l'avait occupée à lire la Bible dans la journée pendant 80 ans, en boucle, encore et encore, de la Genèse à l'Apocalypse. Et que comme elle n'est pas savante, quand elle ne comprend pas, elle l'accepte, elle passe. Peut-être comprendra-t-elle la fois la prochaine lecture, si Dieu lui en fait la grâce. Alors c'est ce dont témoigne l'immense saint Augustin, qui lui, au contraire, était professeur de rhétorique, c'est-à-dire de philosophie, et pour qui la Bible est, selon lui, une chose qui ne se dévoile ni à la pénétration des superbes, ni à la simplicité des enfants. Entrée basse et voûte immense, partout un voile de mystère. Il confesse : je n'étais pas capable d'y entrer, ni de plier ma tête à son allure. Mon orgueil répudiait à sa simplicité et mon regard ne pénétrait pas ses profondeurs. Et c'était pourtant cette écriture qui veut grandir avec les petits. Mais je dédaignais d'être petit et, enflé de ma vaine gloire, je me croyais grand. C'est ainsi que parmi mes professeurs d'exégèse biblique se trouve en bonne place saint Augustin. Et cette bergère de chèvres, maître en interprétation de la Bible, en sagesse de vie et en confiance à Dieu. Ce qui est certain, c'est que quand la femme samaritaine répond « Donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser ici », elle a déjà compris que Jésus parlait de l'eau au sens figuré, l'eau de la parole de Dieu, l'eau de sa bénédiction pour notre soif, une soif profonde qui est en tout humain. Ce langage au sens figuré, reprenant des images bibliques, est tout à fait habituel à l'époque de Jésus. On le voit par exemple quand l'apôtre Paul parle à des paroissiens de Corinthe en leur disant « Nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés à travers la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait dans le désert, et ce rocher, c'était le Christ. » Alors les paroissiens de Paul comprennent tout à fait ce type de lecture de la Bible, ce type de midrash, de réinterprétation de l'écriture ancienne au sens spirituel pour leur vie courante. La preuve, c'est que Paul n'a même pas besoin d'expliquer plus avant ce type de prédication. C'est parfaitement clair pour les gens de l'époque. Et donc, c'est à ce niveau de langage que les fidèles de l'époque étaient habitués. Et c'est dans la Bible elle-même que mon adorable chevrière nonagénaire a accédé à ce niveau de langage. Avec sa lecture humble, elle s'est mise à l'école de la Bible elle-même, avec sa prière et sa confiance en Dieu, avec sa liberté et avec son intelligence. Une fois avertis, nous, c'est à la portée de tous d'avoir ce geste d'interprétation de l'Écriture, libre et hardi, ce geste d'appropriation personnelle de ces textes anciens de la Bible. La Samaritaine comprend donc que Jésus parle de l'eau, de la parole de Dieu, à ce moment de leur conversation. Mais depuis quand est-ce qu'elle a compris que Jésus parlait de l'eau, de la parole de Dieu, et pas de l'eau matérielle, de l'eau du puits ? L'eau qui abreuve le corps et qui permet de laver le linge et de cuire les patates. Remontons un peu plus haut dans le récit pour voir si déjà elle avait compris que c'était au sens spirituel. Quand la femme dit à Jésus, « Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond, d'où tiens-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi ?» que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses enfants et ses bêtes. Quand elle dit ça, il n'est pas possible, évidemment, d'attraper de l'eau au fond d'un puits profond si on n'a pas un seau et une corde. Cela ne résiste pas au premier bon sens venu. Et puis, cette réplique, elle ne peut donc pas être comprise au sens matériel. Et puis quand elle dit « D'où prendrais-tu cette eau ?» Elle prendrait de l'eau d'ailleurs. La Samaritaine a donc déjà au sens, est déjà au sens spirituel, comme le montre d'ailleurs son allusion à Jacob. Jacob qui n'a d'ailleurs jamais creusé de puits en Samarie. Il est par contre connu pour être le type même de l'homme spirituel en ligne directe, corps à corps, avec Dieu, recevant directement sa parole, et puis se battant même avec cette parole. Donc la Samaritaine a parfaitement saisi au quart de tour ce que Jésus lui dit quand elle passe à parler de Jacob, et elle pose à ce moment-là la question la plus pertinente qui soit. Il n'y a donc pas de malentendu non plus à ce stade entre la Samaritaine et Jésus. Il me semble possible que ce soit la remarque précédente de Jésus qui a permis à la femme de comprendre qu'il parlait au sens spirituel de l'eau, de la parole ou de la bénédiction de Dieu. Ce qui n'était pas bien difficile pour la femme à comprendre puisque Jésus parle clairement en disant « Si tu connaissais le don de Dieu, c'est donc bien de cela, du don de Dieu dont il parle dans la suite ». Quand il s'agit de donner ou de recevoir de l'eau, selon cette image hyper classique de la Bible où l'eau douce représente un don de Dieu, peut représenter la Torah, peut représenter le souffle de Dieu qui parle à l'intérieur de nous. Par ailleurs, le fait même de demander de l'eau tout en disant « je vais te donner de l'eau », là aussi, ça n'a aucun sens au niveau matériel. Et donc cette femme, si elle a un peu de bon sens, et elle en a manifestement, a tout de suite compris de quoi parlait Jésus. C'était donc clair et facile à saisir pour la Samaritaine. Par contre, là où elle est géniale, c'est de suivre Jésus là où il nous amène avec ce dialogue. Car c'est extrêmement subversif et même pour aujourd'hui. Elle s'étonne d'abord. « Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob ?» Jacob, l'homme accompagné par Dieu, avec une ligne directe avec Dieu, symbolisée donc, c'est bien connu, par les anges qui montent et qui descendent au-dessus de Jacob. La Samaritaine a bien compris qu'il y a en Jésus plus que Jacob. Elle comprend qu'elle a devant elle le Christ, qui, selon la promesse faite au prophète, fait d'elle une personne comme Jacob, en ligne directe avec Dieu. En effet, un prophète comme Jérémie disait que plus personne n'aura besoin d'enseigner son prochain parce que tous connaîtra vraiment, directement, la parole de l'Éternel. Alors effectivement, comme elle le dit, elle n'aura plus besoin de venir puiser dans le réservoir ancien de paroles qu'est la Bible et son jeu d'interprétations multiples, demandant, selon les biblistes même, d'être savant ou de faire confiance à ces savants pour espérer entendre ce que Dieu a à nous dire. Comme le dit le philosophe Marcel Gauchet, qui a fait une conférence il y a 8 ou 10 jours ici à l'UNIGE, le christianisme est la religion de la fin de la religion. Le but du culte, le but de l'Église, le but même de la lecture de la Bible est de rendre chaque personne autonome dans une authentique relation à Dieu, une authentique intelligence de sa propre vie, dans ce dialogue personnel, intime avec Dieu. Et du coup, la parole de Dieu devient source en nous, une relation à Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans l'hébreu de la Bible, en fidélité. C'est d'ailleurs ce qu'annonçait Jésus à ses disciples un peu de temps avant, en faisant référence déjà à Jacob, le mystique, quand il annonce au chapitre 1er, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert » et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Avec la Samaritaine, nous découvrons que l'heure vient et qu'elle est déjà venue. Et donc, l'heure est venue de cette relation en direct avec Dieu, en esprit et en vérité. Ce n'était pas complètement évident dans cette annonce au chapitre 1er, que c'était pour maintenant et pas simplement pour la vie future. Et puis aussi, il découvre que la Samaritaine est ce Fils de l'homme. Et donc que si même une femme, j'allais dire, même une Samaritaine, c'est-à-dire pas bien croyante comme il faut, semblerait-il, en réputation, eh bien, elle peut être ce Fils de l'homme qu'annonçait Jésus. Même une personne de peu d'instruction, comme une bergère de chèvres, cherchant à entendre son Dieu, son berger à elle. Ensuite, les voisins de la Samaritaine entreront eux aussi dans une relation directe avec l'ultime, au-delà du témoignage de la femme, et donc c'est par chaîne ainsi que nous serons en ligne directe avec Dieu. D'ailleurs, la Samaritaine a bien compris de quoi Jésus parlait, puisque c'est ce qu'elle leur dit à ses voisins. Elle leur dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand est-ce qu'il lui a dit ce qu'elle a fait? Alors, les interprètes nous disent « c'est quand il parle de ses maris. » Mais quand il parle de ses maris, il n'est pas une question, une seconde, de quoi que ce soit qu'elle aurait fait. Ça ne peut pas donc être cela. Le seul faire dont il est question dans ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine, c'est de recevoir directement dans sa propre conscience le souffle de vie de Dieu, ce souffle de fidélité, de lui donc rendre un culte en esprit et en vérité, et d'avoir ce jaillissement, cette ouverture à cette source de parole. Et donc, Jésus lui en parle et elle le fait immédiatement. Et donc ça s'est passé dans ce sens-là. Il lui a dit ce qu'elle a fait parce que quand Jésus parle avec puissance, ce qu'il dit se fait. Il est bien possible que si Jésus lui en parle, c'est qu'il a senti qu'elle avait déjà commencé à s'ouvrir à ce don de Dieu. C'est ce que je pense en fait. Qu'elle avait commencé avant même que Jésus lui parle de cela. En effet, quand Jésus lui demande à boire à elle, pourquoi l'aurait-il fait? Jésus lui demande à boire car elle a soif d'entendre ce qu'elle a à dire, elle. Car ce sera unique, inouï, même pour le Christ. Même Dieu a soif d'entendre ce que nous avons à dire. Et donc cette étrange proposition de Jésus, demandant et offrant à la fois de l'eau, a pu faire tout de suite comprendre à la Samaritaine que Jésus parlait au sens spirituel, car cela est invraisemblable au sens matériel, alors qu'au sens spirituel, cette soif et ce don mutuel tissent une véritable communauté humaine, et même une communauté divino-humaine. L'histoire des multiples maris dont parle Jésus est manifestement à prendre aussi au sens figuré, et ma gardienne de chèvres l'avait bien compris en fait. En effet, dans la société de la Samarie, il était impensable à quiconque d'avoir au sens premier, au sens matériel, d'avoir eu 5 maris plus 1. Par contre, le mariage est dans la Bible l'image d'un certain type d'alliance avec Dieu. Quant à lui, le chiffre 5 est systématiquement une allusion aux 5 livres de la Torah. Quand il y a un chiffre rond comme ça, ce n'est pas un nombre de quantité, c'est un nombre qui signifie une qualité, un sens. Et donc avoir 5 maris ou être marié sous le signe du 5, c'est typique des Samaritains dont la Bible était limitée à la seule Torah. Ils ne croyaient pas aux prophètes, donc aux 5 livres de la Torah, du Pentateuque. Alors le 6e compagnon qui n'est pas un mari, qui n'est donc pas une alliance avec Dieu, c'est la solidarité humaine matérielle sans Dieu, qui manifestement était à l'œuvre dans ce village de Samarie, puisqu'ils fonctionnent vraiment sur la confiance les uns pour les autres. C'est manifestement ce que vit cette femme dans son village, avec cette belle communauté humaine tissée de dialogue et de confiance, au point d'écouter l'étrange parole d'une seule femme. Et donc dans ce texte, il est clair qu'il est question d'un 7e mari qui sera vraiment son mari. En effet, tout lecteur de la Bible sait que l'histoire d'un homme qui rencontre une femme au bord d'un puits se termine dans la Bible par un mariage. Isaac avec Rebecca, Genèse 24, Jacob avec Rachel, Genèse 29, encore notre Jacob, et Moïse avec Tsipora. Exode 2. Ici, Jésus ne vient pas pour épouser la Samaritaine, mais plus comme Éliézer, le serviteur d'Abraham, qui va chercher une femme pour Isaac. Et donc Jésus, il vient à mon avis ici comme serviteur de Dieu pour que la Samaritaine entre en alliance avec Dieu en esprit et en vérité. Une alliance cœur à cœur, et donc que ça soit une alliance de fidélité et de fécondité avec Dieu. Et quand elle rencontre Jésus, c'était comme à une 6e heure, nous dit l'introduction au texte. Et puis Jésus dit ensuite que l'heure vient et qu'elle est déjà là. Et donc il y a un changement d'heure qui se profile dans le milieu de ce texte. C'est l'aube donc de la 7e heure. La 7e heure, comme le 7e jour, et ma chevrière l'avait bien compris, c'est l'heure de la bénédiction de Dieu sur nous, celle où il nous envoie aussi vers nos proches, comme la Samaritaine le fait, puisqu'elle est ici faite par Jésus apôtre, envoyé annoncer aux autres le Christ. Et donc, elle est envoyée pour être bénédiction de Dieu, bénédiction qu'elle va porter aux siens à domicile. Amen.
Thank you.
C'est notre joie de te bénir, Père éternel. Tu n'as pas eu honte d'être appelé notre Dieu. Tu crées le monde, tu nous appelles à la vie. Alors béni sois-tu pour l'œuvre de ton souffle. Béni sois-tu pour ton Fils Jésus-Christ et ce qu'il a accompli pour nous. Béni sois-tu de nous rassembler en un corps et que nous y ayons une place spéciale. Béni sois-tu pour ton amour pour chacun de nous. Amen. Dans l'Évangile, Matthieu nous raconte le récit du dernier repas qu'il prit avec Jésus et ses disciples. Matthieu qui y était, il nous dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Nous prions Dieu. Maintenant, ô Éternel, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table en espérant que tu la présideras. Veuille, par l'action de ton esprit, nourrir notre être avec les paroles, avec la vie de ton Fils. Veuille approfondir encore notre communion avec toi. Fais que nous puissions recevoir ta présence, ta consolation et ta paix. Et saisir notre vocation particulière dans le corps du Christ. Il nous a donné confiance en toi, confiance aussi dans la vie. Et cela nous permet d'agir, de s'engager et de te prier, toi, notre Dieu, comme Père, mais aussi comme notre Mère à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous propose de vous unir dans le chant du cantique numéro 279, « Ô Jésus, ma joie », les deux premières strophes pour nous préparer à la communion.
Thank you.
Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et c'est en signe de cette promesse que cette table est ouverte à quiconque le désire. Je vous propose de vous mettre en rond, donc, comme nous le pouvons, autour de cette table. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour chacun de nous. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Alors oui, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Allez en paix dans la grâce et la joie de notre Seigneur. Alors, comme annonce pour ce dimanche, donc, demain, lundi, rue Sennebier 8, c'est la maison donc, de l'église allemande. De 18h30 à 19h30, nous avons une étude biblique, Emmanuel Roland et moi-même, traversée de la Bible sur Exode 3, « Je suis ». Mardi, de midi et demi à 1h30, il y a donc une conférence que je donne sur l'héroïne biblique Marie-Madeleine. Mercredi à 11h, il y a les obsèques d'Aimon de Blonay à Champelle, qui est donc un fidèle. Et puis dimanche à 10h30, il y a le culte à Champelle. Si vous le désirez, vous pouvez prendre le texte de la prédication que je vous ai proposé tout à l'heure, à la sortie, pour en prendre et en laisser. Et puis aussi, peut-être, si vous le désirez, le donner à quelqu'un que vous pensez pouvoir être intéressé. Avant de recevoir la bénédiction de Dieu sur notre existence... Oui ? Ah, vous avez le droit, Madame la Présidente, oui, bien sûr. Non, ça c'est le 20 octobre, c'est dans trois semaines. Voilà. Alors vous pouvez prendre le bulletin d'ailleurs rive gauche sur la table si vous ne l'avez pas reçu à domicile et puis d'autres informations qui sont dans les tracts, multiples tracts qui sont sur la table. Donc maintenant, oui, effectivement, c'est le moment de l'offrande pendant le chant du cantique. Numéro 45, c'est le psaume 92 dont je vous propose de chanter les trois premières strophes. Certes, c'est chose belle de louer le Seigneur. Et selon les paroles données à Moïse au livre des Nombres, c'est au singulier que nous recevons la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire individuellement, sur chacun, sans condition de croyance, de foi, d'origine ou quoi que ce soit. L'Éternel te bénit et t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors sois béni par toute âme qui respire, ô Dieu, source de vie. Amen.